Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bienvenue à nous le futur pour la deuxième fois cette semaine. Mon nom est Claude Saint-Jean et ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Je suis content que vous soyez là. On parle aujourd'hui d'alimentation, de sécurité alimentaire. On a 5 personnes, je crois, qui vont s'exprimer. Je vous remercie beaucoup à toutes vous toutes qui êtes là et qui êtes là. Et puis, je suis en présence de Joëlle Latour, qui est coordonnatrice de Champ d'Action. Et la grande table, les deux en même temps peut-être? Là.
En fait, du collectif en sécurité alimentaire de Sherbrooke.
Bon, c'est bon.
Oui, c'est ça, mon poste atterrit à la grande table. Mais en fait, je travaille vraiment comme coordonnatrice pour le collectif, qui est un regroupement d'organismes qui sont très actifs en sécurité alimentaire à Sherbrooke, qui ont tous des missions différentes pour couvrir différents enjeux concernant la sécurité alimentaire.
OK. Comme biographie, courte biographie, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
De mon côté? en fait, je suis diplômée de l'Université de Sherbrooke, donc à la maîtrise en gestion de l'environnement. Okay. Je m'implique là, depuis plus d'une dizaine d'années dans différents projets à impact sociaux et environnementaux.
OK, intéressant. Moi, j'ai une maîtrise en service social. J'ai mis beaucoup d'écologie dedans. Ça a été difficile à passer, l'écologie en service social, mais ça commence. Fait que vous pouvez commencer tout de suite. Je crois que vous avez une entrevue avec Isabelle.
Oui, c'est ça. Je prends une petite minute pour expliquer quoi le collectif puis ce qu'on fait au niveau de la sécurité alimentaire. Fait que dans le fond, on est un regroupement d'environ une quinzaine d'organismes qui agissent tous sur différents enjeux, comme j'expliquais. Donc, dans le fond, on a autant des organismes qui sont en agriculture urbaine autour de notre table que des banques alimentaires, que des gens qui font du dépannage alimentaire, que des cuisines collectives, des gens qui s'impliquent aussi au niveau de l'alimentation, au niveau de l'éducation à l'alimentation. Fait que dans le fond, c'est vraiment pour couvrir toutes sortes de différents aspects qui sont reliés à la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est quoi? C'est autant le fait d'avoir un accès à une alimentation saine, mais donc en quantité, accès au niveau aussi financier, au niveau physique, puis la capacité de cuisiner, de connaître d'où provient notre nourriture, puis de faire tout ce cycle-là, en fait, d'une façon durable, donc locale. Et donc, ça touche vraiment là, une diversité de possibilités puis de solutions. Fait que c'est pour ça qu'on est un regroupement qui est aussi varié en solutions pour limiter justement le besoin en dépannage alimentaire. Fait qu'on s'appuie sur toutes sortes d'autres solutions avant de se rendre à ce point-là. J'aimerais présenter, on a Isabelle Prudhomme, la directrice générale à la cuisine collective Le Blé d'Or, qui est avec nous. Bonjour Isabelle.
Bonjour Joëlle.
Est-ce que tu voudrais nous expliquer en quelques mots à nos auditeurs ce que votre organisme, là, la cuisine collective Le Blé d'Or, fait au quotidien? Puis c'est quoi les services en fait que vous rendez à la population?
En fait, la cuisine collective, c'est des groupes de personnes. On a presque 35 groupes de personnes qui viennent cuisiner chez nous aux 2 semaines avec une animatrice qui est présente là, pour les accompagner tout au long de leur cuisine. On est vraiment dans une optique d'apprentissage, donc au niveau des techniques culinaires, des saines habitudes alimentaires. On est beaucoup dans la socialisation aussi, dans l'empathie, dans la discussion. On est aussi au niveau de la budgétisation, donc faire des bons choix alimentaires à faible prix. On a aussi un axe vraiment là, avec nos organismes communautaires de la région qui vont venir. Donc, on a nos membres réguliers, si on veut, là, qui viennent, notre 35 groupes. On a aussi des groupes de l'externe, donc on peut penser au CIM, là, au Centre d'intégration au marché de l'emploi, qui vont venir cuisiner dans divers groupes. Et on a de la mission externe, donc on va dans des écoles faire des ateliers éducatifs, vraiment dans des écoles un peu plus, un indice de défavorisation plus élevé. Donc, on va faire des ateliers éducatifs sur la saine alimentation.
Génial, merci. Écoute, je me questionne, c'est quoi le profil des gens qui viennent chez vous, puis comment est-ce qu'ils trouvent vos services? C'est moi, par exemple, en tant que citoyenne, est-ce que je pourrais aller à la cuisine collective Le Blé d'Or? C'est qui, à qui ça s'adresse concrètement?
Ça s'adresse à tout le monde, mais plus précisément à une clientèle qui a des besoins actuellement. Donc, on a toutes sortes de groupes. Dans les groupes de jour, on a des gens avec plus de difficultés. Donc, des difficultés financières, difficultés émotionnelles, des difficultés de toutes sortes. On a des gens qui ont des traumatismes physiques. On peut penser à des personnes qui sont en perte de capacité. En soirée, on va avoir des groupes plus de gens qui sont au travail, qui sont un peu plus difficile financièrement, là, que c'est un peu plus compliqué. Donc, ils vont venir aux cuisines. Il faut savoir qu'on a vraiment des groupes économiques, donc c'est très peu dispendieux venir aux cuisines collectives. Les gens peuvent nourrir leur famille, ils vont partir avec vraiment beaucoup de portions. Là, si on parle de 3 portions, on peut dire 5 recettes, environ 15 portions pour une personne. Ça va lui coûter entre 5 et 10 $. Donc, c'est grâce à Moisson Estrie, grâce à la Fondation Roch Guertin, grâce à des achats regroupés qu'on fait de notre côté, on peut baisser le prix là, de façon importante. Donc, on cible vraiment plus l'économie.
Wow, c'est vraiment une super mission. Donc, on sent que vous êtes vraiment aussi dans l'éducation à l'alimentation. On a aussi Isabelle Farah. Excusez-moi, Farah.
Bonjour.
Bonjour. Responsable des communications et du financement chez Crocarium qui est avec nous. Crocarium est aussi un organisme qui s'implique au niveau de l'éducation à l'alimentation. Est-ce que tu voudrais nous expliquer un peu plus, en quelques mots, c'est quoi les services que Crocarium fait au quotidien? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
Oui, tout à fait. Ben, nous, on est un organisme qui existe depuis près de 20 ans maintenant à Sherbrooke. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment le développement et l'épanouissement des jeunes par le jardinage éducatif et l'éducation au goût. En gros, on fait de la prévention. Hein. Notre but, c'est vraiment, notre objectif, c'est d'outiller les jeunes et les autres membres de la communauté pour pouvoir renforcer l'autonomie et la sécurité alimentaire, puis toujours avec une approche expérientielle basée sur le plaisir, l'entraide. Mmh. Pour ça, on remplit notre mission par plusieurs moyens. À Sherbrooke, mais aussi partout au Québec, on donne des formations aux intervenants dans le secteur de la petite enfance et puis des écoles primaires. On donne aussi des ateliers éducatifs, de jardinage et d'éducation au goût. On fait des conférences, des concertations. On a un projet qui s'appelle Jardin Jeune Entrepreneur, où on a des jeunes qui, le temps d'un été, deviennent maraîchers. Donc, ils plantent les graines, ils récoltent leurs légumes, ils font de la transformation, puis ils vont vendre sur les marchés. Et là, bientôt, on va ouvrir nos cuisines qui sont dans le projet de Martine, la fondatrice, depuis vraiment beaucoup, beaucoup d'années. Donc, on est basé à Humano District, à Sherbrooke, au pied du Mont Bellevue. Et dans ces cuisines, on va y faire des ateliers. Donc, on a une partie, un espace atelier pour faire des ateliers d'exploration culinaire pour les parents, les enfants, mais les jeunes aussi. On va faire des ateliers d'initiation au goût, de saveur, de découverte. C'est toujours basé sur une alimentation de saisonnalité. On veut vraiment mettre ça en avant. Puis sur les produits d'ici aussi, pour les faire redécouvrir ou les faire aimer aussi. Puis on va aussi faire des formations, des conférences. Et on a une cuisine de transformation. Donc ça, c'est vraiment pour les professionnels qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une cuisine pro directement. Donc on va mettre notre cuisine en location pour qu'ils puissent tester de nouveaux produits, transformer des surplus, etc. Et aussi, on en a beaucoup de choses qui se passent dans les cuisines. On a un service de prêt à manger qui va se faire. Pareil, on va beaucoup travailler sur la saisonnalité. Et le but, c'est vraiment de revaloriser, de lutter contre le gaspillage alimentaire, puis de revaloriser des produits qui étaient destinés malheureusement à être jetés, mais qui sont encore propres à la consommation pour la plupart. Puis on va aussi travailler beaucoup avec des producteurs locaux pour ça.
Allô, juste une petite parenthèse. J'ai fait une émission sur le gaspillage alimentaire. Et puis aussi, c'est la question du plaisir et de l'éducation
L'expérience.
Au goût.
Oui.
Je trouve ça très intéressant. Puis le, parce que Slow Food, que j'aime, en parle aussi. Là. Eux autres, ils ont l'arche du goût, comme l'arche de Noé, là, pour le souvenir des goûts.
Ben, le but, c'est vraiment de ne pas culpabiliser les gens non plus, puis de redonner du plaisir, en fait, de se reconnecter au vivant, de se reconnecter à la terre, de comprendre aussi les liens qu'il y a entre de la terre à l'assiette. Puis c'est vraiment ça notre but. Puis je donne une petite exclue. On va bientôt sortir notre offre d'atelier là, pour la saison d'hiver. Les cuisines ne vont pas tarder à ouvrir. Donc ça va pas tarder à arriver.
Okay, oh, c'est comme une reconnexion là, par les cinq sens. Retour un petit peu à l'intuition finalement du corps. Retour à cette connexion-là, à la nourriture, à la terre. C'est vraiment beau. D'ailleurs, on peut se questionner là, comment ça se fait que tous les enfants n'ont pas déjà accès à vos services. C'est quoi les défis que vous rencontrez au quotidien pour remplir votre mission?
Alors, il y en a plusieurs. Ils sont un peu tous liés hein, les uns aux autres, mais on a déjà l'accès qui est limité aux jeunes en situation de vulnérabilité. Il y a des enjeux, des réalités géographiques et économiques qui sont vraiment présentes, puis qui nous permettent d'assurer notre mission. Oui, mais des fois, c'est pas simple. Nous, si on avait une baguette magique, on aimerait bien que tous nos ateliers puissent être gratuits pour tout le monde et que tout le monde puisse venir facilement dans nos cuisines, qu'il n'y ait pas de problème de transport. Puis la deuxième difficulté qui est liée à la première, hein, c'est le manque de financement et de ressources. Je pense qu'on est beaucoup d'organismes à vivre cette difficulté-là. On a toujours de très belles idées, de bonnes idées. Ce n'est pas toujours facile de les mettre en œuvre. Après, je pense qu'on est dans un secteur où on est pas mal dans le système D et on est plutôt inventif pour trouver des solutions. Mais voilà, pareil, si j'avais une baguette magique, on aimerait pouvoir être plus autonome. Puis c'est aussi pour ça qu'on a créé un service de prêt à manger, qu'on va faire aussi du team building, qu'on va louer nos cuisines pour pouvoir être plus autonome, puis pour pouvoir réinjecter beaucoup plus vite les revenus dans notre mission sociale, en fait. Puis il y a une troisième difficulté, c'est aussi d'engager les jeunes aujourd'hui. Sur le durable, c'est pas une mission si simple que ça. Surtout, on est un peu dans un monde où ils sont un peu en constante sollicitation au niveau de la technologie, le virtuel, puis ça va vite. Donc, c'est pas toujours évident de les reconnecter à quelque chose de plus simple, puis de plus à la terre, quoi. Puis c'est pareil, on aimerait bien que les jeunes soient attirés par ce genre d'activité, puis qu'il n'y ait plus de barrières pour qu'ils puissent venir vivre de belles expériences avec nous.
Ouais, c'est sûr que quand on voit comment les jeux vidéo, puis le fait d'avoir un cellulaire qui nous donne constamment des récompenses, là, ça crée un système d'attachement qui nous coupe un peu de la vie, en fait, ce que vous tentez de faire, là, de reconnecter les gens à la vie par la nourriture. Je me demandais là justement, Isabelle, vous, est-ce que tu sais, vous avez aussi, j'imagine, vos propres lots de défis en tant qu'organisme. Si pour la sécurité alimentaire à Sherbrooke, là, il y a quelque chose à faire, ce serait quoi selon vous?
De notre côté, on a plusieurs enjeux. Le plus grand en ce moment étant l'espace. L'espace est limité. Il faut comprendre que les gens qui viennent chez nous, ils viennent cuisiner. On a beaucoup de groupes. On a deux cuisines. Ça roule en termes de quantité. Donc, l'espace est quand même limité. Puis, il faut entreposer la nourriture pour pouvoir faire à manger. Donc, c'est sûr qu'on a une difficulté d'espace, puis on a une difficulté de transport aussi. Les gens viennent chez nous. Ils s'autonomisent, ils cuisinent pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils repartent avec une nourriture abondante et chaude. Donc, ils doivent transporter la nourriture jusqu'à leur maison, jusqu'à leur loyer. C'est pas toujours si évident que ça. On a des gens qui font beaucoup de routes là, pour venir à nos services à Sherbrooke. On essaie de faire des points de service un peu à l'externe, mais la question du transport demeure. Donc, on a ça. C'est sûr qu'au niveau des ressources humaines aussi, là, c'est pas si évident. On se rend compte qu'on a de plus en plus de gens de soir. La réalité économique fait qu'il y a de plus en plus de jeunes familles qui viennent chez nous. Ils ont besoin de se structurer aussi, là, de sacrifier une soirée pour venir cuisiner à faible prix, de façon santé. C'est hyper intéressant. Là, on voit vraiment, là, de plus en plus, on a de la demande de gens là, qui sont à l'emploi, mais des emplois qui sont peut-être moins payants. Là, moins salariés. Ils ont des besoins. Et là, il faut trouver des employés de soir. C'est un autre enjeu. Mm-hmm.
Effectivement, c'est une multiplicité d'enjeux, notamment qu'on regarde aussi autour du collectif. Là, comment est-ce qu'on peut s'entraider entre organismes pour toutes ces difficultés-là qu'on rencontre là, au niveau du communautaire, comme le parlait Farah, la pérennisation ou encore Isabelle, le stockage. Comment est-ce qu'on peut mutualiser nos efforts pour aller plus loin tout le monde ensemble? C'est un peu ça aussi la mission du collectif. C'est quoi, justement, là, Farah, qu'est-ce que vous pensez que les personnes citoyennes pourraient faire là, pour nous aider à améliorer la sécurité alimentaire à Sherbrooke?
Ben, moi, j'aime dire qu'on est un peu une société de savoir, que mieux on est formé, plus grande elle est notre capacité à s'adapter, puis à travailler ensemble aussi. Pour moi, l'éducation, c'est pour ça que c'est vraiment une des clés pour aider à la sécurité alimentaire. Puis, c'est aussi comprendre que la santé planétaire, elle passe aussi dans nos assiettes, mais sans trop non plus se culpabiliser, prendre une petite bouchée à la fois aussi, c'est important, pas trop d'un coup. Puis, pour quelques exemples d'actions, ça peut être bien évidemment d'acheter local, de saison, ça permet d'aider l'économie locale et les circuits courts. C'est aussi s'engager dans des projets de partage de nourriture, de glanage, offrir de son temps, faire des dons, participer aux activités, aux actions que les organismes mettent en place. C'est aussi réduire le gaspillage alimentaire. C'est aussi bon pour le porte-monnaie. Mais c'est voilà. Puis ça passe aussi toujours par de l'apprentissage, mais apprendre à gérer ses provisions, à cuisiner les restes, à congeler, comment on congèle. Ça permet vraiment d'optimiser les achats, puis de réduire aussi l'empreinte écologique. Et puis pourquoi pas de participer à des jardins communautaires, des cuisines collectives. Ça permet de transmettre les savoirs, d'être connecté avec les autres, puis de créer des liens. Voilà quelques idées.
Merci beaucoup. Pour clore ce moment d'entrevue, j'aimerais savoir s'il y avait une chose à faire, vous pensez un mot, une phrase là, pour la sécurité alimentaire, ça serait quoi, Isabelle?
Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Très bonne question. Tu sais, je reviendrai un peu sur ce qu'elle a dit, Farah, au niveau de l'éducation. Je pense que tout passe par l'éducation. C'est en éduquant qu'on s'élève tout le monde ensemble. Donc, c'est sûr que je reviendrai sur l'éducation. Ce sont les bons moyens pour s'en sortir collectivement. Je vais revenir aussi à ma phrase typique, là, mais de donner la canne à pêche à la personne, lui montrer à pêcher. Pas seulement lui donner du poisson. Je pense que collectivement, si on est tous dans cet esprit-là, bien, on va peut-être arriver à autre chose, tu sais, tous ensemble.
Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Farah, d'avoir été avec nous. C'était vraiment un grand plaisir.
Merci.
Merci aussi à vous deux, vous trois. Et puis, on a manqué la publicité, mais je vais la faire. Vous êtes à l'écoute de CFAQ, la radio universitaire. C'est l'émission À nous, le futur. Mon nom est Claude Saint-Georges. Je suis avec Joël Latour, Isabelle et...
Farah,
d'accord. Et puis, on va faire une petite chanson. D'ailleurs, vous avez parlé des jeunes. Les jeunes disent souvent, c'est cool. Mais d'où ça vient, c'est cool? Il y a Gilles Valiquette qui a fait une chanson là-dessus il y a des siècles. Là. On va écouter ça.
Je suis cool. On parlait.
Oui, rebonjour, ici Claude pour À nous le futur. Fait que nous sommes un groupe qui parlons de sécurité alimentaire aujourd'hui. Alimentaire, prononcez le T. Dans le cadre de Moisson Estrie et du Radioton qu'organise CEFAC. Fait que maintenant, je reviens à Joël Latour qui a fait une journée au complet sur la sécurité alimentaire à laquelle j'ai assisté en septembre dernier, je pense.
Oui, c'était au début d'octobre, en fait.
Bon, c'est vraiment important puis délicieux, puis bravo pour ça. Fait qu'on continue à parler de ça et je vous laisse la parole.
Merci. Donc oui, effectivement, on a fait une journée de la sécurité alimentaire avec le collectif, donc au début du mois d'octobre. Et puis, justement, sur notre comité organisateur, on avait Karine Godbout, qui est directrice générale adjointe à la Grande Table, qui est venue pour nous parler aujourd'hui de la Grande Table, qui est avec nous. Salut, Karine.
Salut, merci pour cette belle invitation là, de venir vous jaser aujourd'hui de notre organisme et de façon plus globale aussi, de la sécurité alimentaire à Sherbrooke.
D'accord. Allez-y. Excusez.
Oui. Donc, ça me fait vraiment bien plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la Grande Table. Donc, est-ce que vous connaissez la Grande Table? La Grande Table, c'est un organisme qui a été fondé en 1991, quand même, toujours avec des objectifs là, qui sont portés sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui vivent avec peu de revenus ou ponctuellement en situation de précarité. Donc, nous, dans le fond, on a comme deux secteurs d'activité. Un secteur d'activité qui se divise en deux dans les écoles, mais aussi un secteur qui vient répondre aussi à des demandes en première ligne. Donc, peut-être que je peux vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est nos activités. Donc, dans les écoles, on divise en deux services. Donc, on a d'abord les petite boîte à lunch, qui est un service qui existe, dans le fond, depuis 2013, qui est offert gratuitement à des élèves qui sont ciblés par la direction ou par l'équipe école. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand une école, un professeur, un service de garde, une direction s'aperçoit qu'un enfant ne mange pas ou ne mange pas bien, il nous réfère, dans le fond, cet enfant-là pour qu'on puisse lui fournir pendant toute l'année scolaire un repas chaud sur l'heure du midi et une collation. Donc, dans la dernière année, c'est 350 élèves avec 47 449 repas chauds et des collations qui ont été servis. Nous sommes présentement dans 15 écoles primaires de la ville de Sherbrooke pour le service des petites boîtes à lunch. Wow. Le deuxième service qu'on a dans les écoles aussi, c'est le service des éconolunchs. Nous, la Grande Table, on participe. Dans le fond, on a un très bon partenaire qui est une cantine pour tous, qui est un service, dans le fond, traiteur qui se déploie petit à petit à travers le Québec. Donc, nous, on est dans 15 écoles primaires de Sherbrooke. C'est souvent des écoles avec un fort indice de défavorisation. Donc, on fournit les repas chauds. Donc, l'année passée, c'était environ 900 repas par jour qui partaient dans les écoles primaires. Puis, on a connu aussi quand même une forte croissance parce que d'année en année, comme on a commencé tout petit avec une école, deux écoles, quatre écoles, donc cette année, on est rendu à 15 et on est passé comme de 40 000 repas chauds en 2022-2023 à plus de 70 000 en 2023-2024. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'effectivement, il y a une explosion de la demande. Celle-là s'explique parce que, justement, à chaque année, on a des écoles qui s'ajoutent. Aussi, un des secteurs d'activité dans lequel on appelle nos savoureux du comptoir. Donc, c'est un peu un service de première ligne. Avant, ce qu'il faut comprendre, donc il y a le avant et le après la pandémie. Donc, nous, la Grande Table, on offrait un service de repas sur l'heure du souper, deux tablées. Dans le fond, les gens venaient dans la salle à dîner, puis on mangeait tout le monde ensemble. Et avec la pandémie, bien, c'est une activité qu'on a dû revoir. Donc, on a fermé la salle à dîner pour les repas ouverts, mais on a développé les savoureux du comptoir. Qu'est-ce que c'est, les savoureux du comptoir? C'est que les gens, du lundi au vendredi, peuvent venir les après-midi à la Grande Table pour venir chercher des repas à moindre coût, donc À la Grande Table, on a instauré une tarification sociale. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gens à faible revenu peuvent venir une fois par semaine à la Grande Table et acheter des plats à 1 $. Donc, 7 repas par semaine par personne. Donc, si par exemple, on est une mère monoparentale, qu'on a 2 enfants, bien, on peut partir avec 21 repas individuels au comptoir. Ce service-là est très apprécié parce que bien, les gens ont une vingtaine de choix de repas quand ils viennent chez nous. La Grande Table, on a aussi des collaborations avec le Starbucks, par exemple, avec la Pinte. On va aussi chercher des denrées à Moisson Estrie. Donc, quand les gens viennent chez nous acheter les plats à 1 $, on leur remet aussi, selon les disponibilités des choses qu'on a à redistribuer, on vient renflouer un peu, si on veut, l'épicerie puis le besoin avec ce qui est disponible. Donc, c'est un service qui est quand même très apprécié et qui a connu aussi dans les dernières années une explosion incroyable. Donc, dans la dernière année, on est passé à plus de 85 000 repas pour emporter qui ont été vendus au coût d'un dollar. Et ça, c'était une augmentation, juste pour comparer l'année précédente, 22 000 repas de plus que l'année précédente. Donc, c'est un 35% de hausse, dans le fond, de la demande. Puis, cette formule-là, des plats pour apporter, est aussi offerte aux parents étudiants, par exemple, je le dis, parce qu'on est à l'Université de Sherbrooke ici. Donc, on a des partenariats avec l'Université de Sherbrooke, le Cégep, le Collège Champlain, plein également, où les parents peuvent avoir accès à tout ça. J'ai beaucoup de choses à dire. Oui, je termine, oui, cette partie-là.
J'avais une question pour toi,
oui,
justement.
Vas-y, je t'écoute.
Ben, par rapport aux services qui sont dans les écoles, on comprend que c'est par les écoles que les gens peuvent bénéficier de ces services-là.
Oui.
Mais au niveau des savoureux du comptoir, là, comment les gens ils font pour pouvoir avoir accès à ces repas-là? C'est une tarification sociale?
Donc, la tarification sociale, donc nous, on fonctionne avec des preuves de revenus. Donc, les gens viennent pour s'enregistrer comme bénéficiaires chez nous avec une preuve de revenus de la dernière année. Ça peut être soit le rapport d'impôt, il y a plusieurs éléments. Et donc, on a certaines tranches de qualification. Donc, on peut, si on est à faible revenu, on peut avoir les repas à 1 $. Sinon, on a une tarification aussi à 2,75 $. C'est ce qu'on a instauré récemment, parce que là, je vous parlerai tantôt du changement aussi de clientèle ou de l'évolution, en fait, de ces demandes-là. Donc, et on a aussi un tarif à 5 $ pour les gens qui sont non-membres. Il y a des gens, on collabore avec les organismes, avec le CIUS aussi, donc on est en lien avec des intervenants de d'autres organismes qui nous réfèrent des gens, mais les inscriptions, donc les gens viennent nous rencontrer, une première rencontre, on fait l'inscription, puis après ça, les gens, pour toute l'année, peuvent venir s'approvisionner chez nous.
Mm-hmm. Fait que pour le tarif à 5 $, j'imagine qu'à ce niveau-là, c'est un peu accessible à tous.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Les gens, des fois, c'est bien pratique, moi, je vous le dis. Moi, j'en amène des plats chez nous. Des fois, on est un peu plus pressé. Les enfants ont beaucoup d'activités aussi. Donc, c'est quelque chose qui est super pratique. Rapidement, on peut faire chauffer ça. Donc, c'est quelque chose qui est bien, qui dépanne. En tout cas, moi, qui me dépanne beaucoup.
Ben oui, c'est clair. Puis, dans le fond, là, les différentes personnes qui fréquentent l'organisme, donc, tu sais, je sais que la Grande Table font des activités aussi, des activités de par exemple, de cuisine à l'automne ou encore à l'hiver. C'est qui le type de personnes qui viennent à la Grande Table? Vous devez avoir des liens quand même étroits, là, vu que vous faites des activités avec eux. C'est ça, je me demandais, tu sais, c'est qui le type de personnes, les profils qui fréquentent votre organisme?
Bien, on l'a dit tantôt, je disais qu'on avait fermé les repas de salle à dîner. On a beaucoup d'activités. On a repris ça par des activités thématiques. Donc, pratiquement à chaque mois, on a des activités thématiques, que ça soit dernièrement justement pour l'Halloween. Là, on prépare notre brunch de Noël avec le Père Noël, la Saint-Valentin. On a la fête de fin d'école, la fête de la rentrée. Donc, on essaie de garder, dans le fond, le lien avec nos bénéficiaires. Récemment, on a ouvert un petit espace café aussi, puis dans notre salle à dîner, les gens viennent chercher des repas, puis ils peuvent prendre le temps de s'asseoir, manger un petit muffin, prendre un café, jaser, puis on prend des nouvelles. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la clientèle, on a vu dans la dernière année aussi, avec toute la conjoncture économique, là, puis tout ce qui se passe actuellement, nous, on était beaucoup avec les enfants, évidemment, dans les écoles et tout ça, mais on aide les familles. Donc, dans le fond, dans la dernière année, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup plus de gens qui nous sont référés, beaucoup plus aussi de personnes seules, des personnes âgées. Puis, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une espèce de glissement aussi de la classe moyenne. Des fois, les gens ont besoin de revenir ponctuellement ou même des fois, les deux parents travaillent puis ils se qualifiaient des fois juste au-dessus. C'est pour ça qu'on a instauré la tarification sociale parce que des fois, les gens gagnaient un petit peu, il y avait un petit peu plus de revenus, ne pouvaient pas avoir accès au repas à 1 $ puis il y avait comme une bonne marge entre payer 1 $ puis 5 $ Donc, on voit un peu ce changement de clientèle-là qui est finalement dû à toute, comme je disais, la conjoncture économique, le post-pandémie, l'augmentation des prix de l'alimentation, le logement aussi qui augmente, l'inflation, le coût de la vie. Donc, en absence de marge de manœuvre, en fait, ailleurs dans les autres sphères d'activité, bien, c'est souvent dans le panier d'épicerie que s'effectuent les sacrifices. À la fin, c'est ce qu'on remarque.
Écoute, notre moment d'entrevue te tire déjà à sa fin. J'aurais une dernière question pour toi, Karine. Ce serait quoi, tu penses, tu sais, en une phrase, là, comme qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur par rapport à l'impact qu'a la Grande Table sur la sécurité alimentaire à Sherbrooke? Qu'est-ce que tu penses qui est la plus grande force de la Grande Table sur la sécurité alimentaire à Sherbrooke?
La force, écoute, on a plein de forces à la Grande Table. C'est sûr que tantôt, j'entendais aussi dans tes échanges précédents, tout ce qui est l'éducation, l'accompagnement, on est là-dedans, l'autonomie, montrer à cuisiner. Cette année, on a fait, grâce au comité estrien des saines habitudes de vie, on a eu des sous pour développer un aménagement paysager extérieur à la Grande Table. Donc oui, des fleurs pour nos pollinisateurs, mais aussi des bacs de jardinage, des arbustes et des arbres fruitiers pour embellir, mais aussi pour que ça donne une occasion d'échange puis de fierté aussi qu'on a à la Grande Table. Donc, évidemment, ce qui est la force première, c'est l'équipe. C'est le cœur de notre équipe parce que nous, on est aussi un plateau de travail chez nous. Donc, la réinsertion sociale, les subventions salariales, les gens qui développent des nouvelles compétences, nos bénévoles sont une grande force. Donc, ça prend une équipe solide pour être capable de répondre là, à ces besoins-là qui sont grandissants en ce moment. J'ai encore eu plein d'affaires à dire.
Ben oui, c'est sûr. C'est toujours trop court.
C'est clair.
Oui, c'est ça, une équipe de cœur, effectivement. Je les connais particulièrement puisque mon poste atterrit à la Grande Table, mais c'est une merveilleuse équipe. Merci, Karine, d'avoir été avec nous. Après la pause, on se retrouve justement avec un organisme qui fait de l'agriculture urbaine et aussi une intervenante qui intervient au type de profil similaire à la Grande Table. On vous revient après la pause. Merci.
Oui, merci. La pause, je l'improvise parce qu'on vient de perdre un écran. Là. Un monsieur qui vient de courir dans l'autre studio brancher des fils, je pense. Fait que je pensais à la musique de Gilles Vigneault, Un chêne, mais on va remettre ça plus tard. Fait que je vous remercie beaucoup, Karine, de la Grande Table. Et merci, Joël, qui pose des questions vraiment superbes. Des questions du cœur. Et des questions de la raison aussi.
Merci.
Fait que, donc, qu'est-ce qu'elle dit? Vous êtes à l'écoute de À nous le futur. Et puis, c'est dans le cadre du radioton qu'organise CEFAC pour les profits de Moisson Estrie. J'espère que les profits vont augmenter avec les nouvelles élections états-uniennes. Ils n'ont pas baissé. Fait que, on continue. Je ne sais pas si Alexandre va arriver. Là. Bon, j'ai perdu la souris. Un instant, on va faire. Ah, il y a Karine qui s'en vient? Non?
Fait qu'on a Catherine. En fait.
Joël, allez. Est-ce qu'on vous entendait présentement?
Oui,
okay,
on
d'accord.
Vous entend bien, Claude.
Vous pouvez continuer pour l'entrevue avec Catherine, Gabrielle.
Oui, fait qu'on a Catherine qui est avec nous, Catherine Plante-Rodrigue, qui est agente de développement sécurité alimentaire à la table de quartier La Roque Communauté et Ascot en santé. Dans le fond, Catherine, qu'est-ce que tu fais au quotidien? C'est quoi une agente de développement sécurité alimentaire pour une table de quartier?
Okay, je vais essayer de rendre ça clair et simple. Donc, je travaille à l'initiative Sherbrooke en développement des communautés
à l'ISDC. Donc, je suis prêtée à des tables de quartier pour faciliter le travail en sécurité alimentaire. Parce qu'on trouvait qu'il y a certaines tables de quartier qui ont des grands besoins parce qu'on s'installe en particulier dans des quartiers plus défavorisés socialement et matériellement. Et mon travail consiste à faire du développement des communautés, donc de créer des initiatives qui renforcent la capacité des citoyens à répondre collectivement aux besoins locaux afin d'améliorer leur qualité de vie. L'idée centrale, c'est de promouvoir une participation active des citoyens de la communauté dans les projets pour répondre à leurs priorités. Donc, on considère vraiment que les citoyens, c'est les experts de leur réalité. Mmh. C'est à chaque jour eux qui vivent les difficultés qu'ils rencontrent. Donc, on pense que c'est eux aussi qui sont mieux à même de formuler les solutions pour répondre à ces grands enjeux-là. Mmh. Et autour d'une table de quartier, on essaie de réunir des acteurs qui agissent dans ce quartier-là. Donc, une école, le technicien en loisirs de la ville de Sherbrooke, le centre de loisirs, la maison des jeunes, etc., la police communautaire, pour aussi avoir des partenaires dans la mise en place de ces grandes solutions-là. Une table de quartier, ça travaille pas seulement sur l'alimentation, ça travaille sur plein d'aspects, mais moi, je me concentre sur ce mandat-là.
Fait que les citoyens choisissent les projets sur lesquels ils ont envie de travailler, basés sur les enjeux qu'ils vivent au quotidien, c'est bien ça?
Oui.
Wow! C'est vraiment une belle mission, ça. Puis, dis-moi, dans ce cadre-là, ça doit pas toujours être évident de rassembler la motivation des citoyens, de trouver les bonnes ressources pour répondre aux besoins qui sont établis, puis de faire en sorte que les solutions arrivent et existent, se créent sur la table. Mm-hmm. Donc, c'est quoi les plus grandes difficultés, en fait, là, que tu côtoies au quotidien là, dans ton travail?
Donc, c'est sûr que de par la clientèle, on réalise que c'est de plus en plus difficile de mobiliser les citoyens. On a tout un mode de vie super occupé, de plus en plus, le rythme est rapide, la charge mentale est énorme. Donc, on peut s'imaginer que dans des quartiers plus défavorisés socialement ou matériellement, pour une maman monoparentale d'aller chercher son épicerie quand elle n'a pas de service de garde, qu'elle a une gestion d'un budget serré, qu'elle n'a pas de voiture, bien, ça se rajoute tout le temps à la charge mentale de faire une tâche qui est si simple pour moi, de prendre ma voiture pour aller à l'épicerie. Bien, pour elle, ça peut être encore plus compliqué. On peut imaginer la complexité aussi pour une personne nouvellement immigrante, donc la barrière de la langue. Un bon aspect aussi à ne pas prendre, à sous-estimer, c'est leur sentiment d'autocompétence. Donc, ces personnes-là, ils sentent souvent qu'ils sont les laissés pour compte de la société, qu'ils ont peu de moyens. Donc, souvent, ils sont analphabètes, sont éloignés du marché du travail. Donc, de dire, oui, implique-toi dans un projet qu'on va créer de A à Z, que ça va prendre une gestion budgétaire, des communications, bien, pour eux, ça peut être vertigineux, là. Donc, ça va être de les mobiliser dans cet aspect-là. Puis, il y a aussi bien, l'aspect de la COVID. On dirait que ça amener beaucoup les gens chez eux, puis là, c'est plus difficile qu'avant de les faire sortir de la maison. Donc, on a encore cette répercussion-là.
C'est quoi les projets qui sont les plus motivants que vous faites avec les citoyens, que vous voyez que les citoyens sont emballés par ce type de projet-là?
Je dirais que c'est les projets les plus simples, puis c'est parfois un peu comme le retour vers le passé. Donc, nous, à la Roque Communauté, une des tables de quartier que j'accompagne, on a créé la casserole. Donc, avec un partenariat avec la Maison des grands-parents, deux fois par mois, il y a des bénévoles citoyens qui cuisinent un repas grâce à des ingrédients qu'on reçoit de Moisson Estrie. Et on a 30 places pour manger gratuitement. On ne demande pas de preuve de revenus. C'est que tu sois un citoyen qui vit plus de l'isolement, qui veut venir manger, ou une personne immigrante qui veut pratiquer son français, qu'une maman qui est en congé de maternité qui veut venir manger avec nous. On les accueille, on mange vraiment bien, on socialise. Puis à l'écran aussi, on a un babillard qui diffuse les autres services des autres organisations. Donc, c'est vraiment simple, mais ça fonctionne. Puis ça crée un sentiment de communauté dans notre quartier.
Wow! C'est vraiment des beaux projets, ça. Merci, Catherine. J'aimerais aussi présenter Gabrielle Rondeau-Leclerc, directrice générale et biologiste chez Rêve Nourricier. Rêve Nourricier aussi font des projets avec les citoyens, notamment. Donc, ils amènent une belle mixité sociale à se mettre les mains dans la terre. Gabrielle, est-ce que tu voudrais nous expliquer en quelques mots c'est quoi concrètement que Rêve Nourricier fait au quotidien, puis c'est quoi l'impact que vous avez sur la sécurité alimentaire à Sherbrooke?
Oui, d'abord, bonjour Joël, bonjour Claude, salut Catherine.
Salut.
Je suis contente d'être là. Merci pour l'invitation au Radioton. Fait que oui, Rêve Nourricier, c'est une entreprise sociale à Sherbrooke. On fait des projets d'agriculture urbaine et de verdissement. On est aussi beaucoup axé sur l'éducation. Donc, nos deux grands volets, c'est vraiment l'éducation puis l'aménagement de jardin. Donc là, tu me demandais un peu qu'est-ce qu'on fait au quotidien, c'est ça, pour contribuer à la sécurité alimentaire. J'ai-tu bien compris la question?
Oui, exactement.
Oui, donc nous autres, on a plusieurs axes, comme je disais, là, d'action, mais tout est vraiment dirigé vers l'empuissancement ou, comme on dirait, la proaction. Donc, la sécurité alimentaire, quand on pense à qu'est-ce que ça veut dire, on pense souvent à directement donner de la nourriture aux gens, comme justement, il y a beaucoup d'organismes à Sherbrooke qui font, puis il y a une chance qu'ils sont là. Nous autres, on a un petit peu un autre axe d'action parce que on va plutôt travailler dans les jardins, donc l'aspect d'éducation à l'agriculture urbaine. Donc, on va aider les communautés à partir des nouveaux jardins. On va aussi les accompagner dans l'entretien de leurs jardins, dans la mobilisation de leur communauté. On fait ça tant au niveau communautaire qu'au niveau plus des entreprises, des commerces, dans les écoles. Donc, on travaille avec vraiment une diversité d'acteurs là, de la communauté. Puis un de nos projets, je dirais, qui touche le plus la sécurité alimentaire directement, c'est vraiment le projet qu'on fait avec la ville depuis maintenant 3 ans, qui s'appelle le circuit nourricier. Puis en gros, il y a 2 volets à ce grand projet-là. Il y a un volet qui est axé vraiment sur les jardins communautaires, collectifs et solidaires de Sherbrooke. Donc, on leur offre en fait des services conseils horticoles aux jardiniers communautaires qui ont des jardins dans les parcs, dans les terrains de la ville à Sherbrooke. Puis on les accompagne pour justement améliorer leurs pratiques de jardinage plus écologiques, améliorer leur résilience quand il y a des maladies, des insectes ravageurs dans leur jardin, trouver des façons de faire de la lutte intégrée, tu sais, à toutes ces éventuelles ravages qui peuvent avoir lieu dans les jardins, évidemment. À identifier les plantes qui poussent là naturellement, comment faire du compostage. Donc, on va vraiment leur offrir une diversité d'ateliers, de formations, de conseils dans le domaine du jardinage.
Wow, ça doit vraiment créer des moments assez mémorables. tous ces beaux projets-là, je veux dire, les gens qui sortent dehors, qui apprennent carrément à cultiver leur propre nourriture, qui récoltent le fruit de leur travail. Pourrais-tu nous raconter un de ces moments-là qui t'a particulièrement marqué?
Je dirais qu'il y en a un qui est arrivé récemment qui m'a beaucoup touchée. En 2021, on avait fait un projet d'aménagement d'une plantation, en fait, de fruitiers dans une école primaire qui s'appelle l'école Jean 23 dans le coin de Ascot. Puis je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, j'avais rencontré... on était en train de préparer la plantation. Fait qu'on, tu sais, on faisait le chantier avec le gars de l'appel mécanique qui venait comme nous préparer, tu sais, le sol pour la plantation quelques jours avant le jour J. Puis on était en train de discuter, moi puis le gars de l'appel, Alexandre. Puis je me rappelle, il y avait une gang de petites filles puis de petits gars qui étaient juste là au bord de la clôture. à nous regarder, puis à regarder la grosse pelle mécanique avec des grands yeux, là, tu sais. Fait que là, il nous demandait s'il pouvait venir, il pouvait venir de l'autre côté de la clôture. Fait que là, on était comme, ben oui, venez-vous-en, tu sais, c'est une école, il peut venir. Puis la pelle n'était pas non plus en mouvement, tu sais. Fait que là, ils s'en viennent nous voir, puis là, ils étaient tellement émerveillés par la pelle mécanique, puis je me rappelle de cette petite fille-là qui avait comme sa petite tuque avec des oreilles, là, sa petite tuque rose avec des petites oreilles, là, vraiment trop mignonne. Puis je me suis déjà pris une photo d'elle avec la pelle mécanique à ce moment-là, juste parce qu'elle m'avait demandé, tu sais. Mais ça devait avoir, quoi, 8 ans, peut-être? Elle était au primaire, tu sais. Puis récemment, cette année, je suis allée dans une autre école, à l'École des Avenues, faire un suivi sur une plantation, encore une fois, de fruitiers qu'on avait fait à cette école-là, à l'École des Avenues à Fleurimont. Puis, on faisait une activité, une genre de corvée d'entretien des plantations. Fait que là, je regarde le groupe de jeunes, c'est un groupe d'étudiants qui vient nous aider à arracher des mauvaises herbes. Puis là, je regarde une des filles, puis je suis comme, tabarnouche, elle me dit quelque chose. Je suis comme, ah, j'ai des visages que je reconnais. Puis un petit peu plus tard, cette fille-là, elle vient me voir, puis elle était comme, est-ce que vous avez fait un projet à l'école Jean 23? Puis je suis comme, ouais. Puis tu sais, la fille était rendue grande, elle était plus grande que moi, là, tu sais. Une style joueuse de basketball, là. Puis là, elle me dit, ah, ouais, je vous ai rencontré là. Puis là, je la regarde, je suis comme, oh my God, est-ce que c'est toi qui était monté sur la pelle mécanique, tu sais? Elle était super gênée, puis elle a dit oui! Puis j'étais toute touchée parce que c'est comme, waouh, tu sais, j'ai vu la petite fille qui était haute comme 3 pommes, ça... puis là, dans un autre projet quelques années plus tard.
Ça boucle la boucle, oui, c'est ça.
Ah ouais, c'est tellement.
Ah, oh, wow!
Elle était super motivée à travailler, elle était super travaillante, puis. C'est beau de voir que ça l'avait comme touché, cette expérience-là,
oui. Ben oui, c'est tellement beau de pouvoir connecter comme ça au travers des projets, puis de voir les projets grandir, mais aussi de voir les gens au travers des projets grandir. D'ailleurs, dans le fond, tu sais, Catherine, toi aussi, tu vis des projets concrets là, avec les citoyens, notamment aussi, je pense, des projets de plantation à quelques occasions. Tu sais, c'est quoi, là, concrètement, dans le quotidien, l'impact qu'ont les tables de quartier sur la sécurité alimentaire à Sherbrooke?
Bien, en fait, si en plus on a la chance d'avoir une subvention qu'on vient de déposer, bien, Gabrielle et moi, on aurait la chance de collaborer ensemble sur une plantation dans un quartier, dans un office municipal d'habitation qui est très gazonné, c'est un îlot de chaleur, donc on voulait mettre des arbres, puis la collaboration était de mise entre nos deux organisations. Mais je pense que l'impact des tables de quartier, c'est de oui, on favorise la concertation entre les acteurs, donc s'assurer que le blé d'or parle à la grande table, puis tout ça, favoriser ce maillage-là. On veut aussi faire connaître les services aux citoyens, donc ils ont des belles missions. Des fois, c'est dans la marée d'informations, c'est faire connaître les services qui existent pour qu'ils aient cherché les ressources. Mais je pense que le plus gros impact, c'est que parce que je m'assois à la casserole avec les citoyens, puis je prends un moment avec eux. On est beaucoup dans une approche de proximité. Puis je pense que les citoyens se sentent vus et écoutés. Donc, on veut leur rappeler que c'est eux qui n'ont pas échoué personnellement, mais que c'est des gros défis. Puis la sécurité alimentaire, puis c'est des problèmes collectifs.
Ah, merci. Merci, Catherine. Merci, Gabrielle, d'avoir été avec nous. Donc, Gabrielle de Rêve Nourricier et Catherine de la table de quartier La Roque Communauté et Ascot en santé. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on avait une entrevue au sujet de la sécurité alimentaire. Je m'appelle Joëlle Latour, coordonnatrice du collectif en sécurité alimentaire de Sherbrooke. Si vous voulez soutenir ces merveilleux organismes, vous pouvez aller directement sur leur page web pour voir comment vous pouvez les soutenir. D'ailleurs, le collectif en sécurité alimentaire de Sherbrooke, nous avons actuellement une activité de financement. Donc, on vend une bière de sous-financement qui va être en vente au Boc et Bière pour soutenir l'activité de glanage, donc de récolte de surplus au champ. Les récoltes vont donc un tiers, un tiers, un tiers aux producteurs, aux bénévoles et aux organismes en sécurité. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle fin de journée.
Merci beaucoup, Joëlle Latour et vos invités. C'est Claude à Nous le futur et on doit terminer immédiatement. Bonne journée à tous et bon appétit.